Jacques Lacan. Séminaire L'envers de la psychanalyse. Le 14 janvier 1970.
Qui s'était distingué par exemple de consigne concernant ce que je pouvais avancer sur ce sujet intéressant. Parce qu'il s'agissait de rien moins que de l'inconscient, de l'acte au départ. Mon enseignement a pris son vol, des autres. Eh bien, la réponse, enfin, l'intérêt pris par ce groupe à ce que j'ai mangé, c'était manifesté par quelque chose que, quelque part, récemment, je ne sais plus où, dans une petite préface, je signalais de l'interdit au moins de 50 ans. Nous étions en 60, nous n'ayons pas. Nous étions loin. Sommes-nous plus près, c'est la question. Loin de toute contestation à proprement parler, une autorité entre autres, celle du savoir. Sauf que c'est interdit, interdit au moins 50 ans, proféré par quelque chose d'un curieux caractère. En tout cas, l'un d'entre eux, la rendant comparable, à une sorte de monopole de savoir, c'est interdit plutôt que simplement la simple. C'est dire quel était le travail qui se proposait de ceux qui avaient bien voulu s'en charger de pouvoir faire entendre quelque chose à proprement parler inouï aux oreilles en question. Mais comment ils le firent? C'est quelque chose dont après tout il n'est pas trop tard pour que je fasse le point. Puisqu'aussi bien sur le moment, il n'était pas question. Pas question que je le fasse pour la raison que j'avais déjà beaucoup de voir entrer en jeu pour des oreilles absolument non averties qui n'avaient rien reçu du moindre de ce que j'avais pu articuler alors depuis 7 ans, ce n'était évidemment pas le moment vis-à-vis de ceux-là même qui se livraient à ce travail de défrichage, y apporter quoi que ce soit, du tout sembler, y trouver à redire. Il y avait-il là beaucoup d'éléments excellents. Ce point donc à propos d'une thèse. Une thèse récente qui, ma foi, se produit quelque part à la frontière de l'ère francophone, et je dirais là où maintenir les droits en lutte vaillamment, à Louvain, pour l'appeler par son nom, on appelle thèse, mon Dieu, sur ce qu'on appelle peut-être improprement mon œuvre. Dans cette thèse, bien sûr, plus une thèse, ne l'oublions pas, universitaire, il faut bien avancer des choses qui prennent forme universitaire et la moindre des choses qui apparaissent, c'est que mon œuvre s'y prête mal. Je viens de voir, c'est pas défavorable à l'avancée d'un tel propos de thèse universitaire que soit situé ce qui, déjà, d'universitaire, a pu contribuer à être le véhicule de la dite œuvre, toujours entre guillemets. Et bien je vois aussi l'un des auteurs de ce rapport de Bonneval Et là aussi, mise en avant, et bien sûr, d'une façon alors qu'à ce titre, je ne peux manquer dans ma préface de marquer le point. Le point doit être fait de ce qui est éventuellement traduction de ce que j'énonce et de ce que j'ai à proprement parler. Il est clair que cette petite préface que j'ai donnée à cette thèse qui va paraître à Bruxelles, puisque c'est évident qu'une préface de moi lui allège les ailes. Et bien, mon Dieu, dans cette préface, je portais par exemple de bien marquer, c'est là sa seule utilité, que ce n'est pas la même chose de dire que l'inconscient est la condition du langage, ou de dire que le langage est la condition de l'inconscient. Le langage est la condition de l'inconscient, c'est ce que je dis, la façon dont, pour des raisons qui, certes, pourraient, dans leur détail, être tout à fait motivées, du strict motif universitaire, et ceci certainement mènerait loin, nous mènera peut-être assez loin cette année, du strict motif universitaire dit, découle que la personne qui me traduit d'être formée style, d'un type d'imposition du discours universitaire ne veut faire autre chose qu'elle croit ou non me commenter que de renverser ma formule, c'est-à-dire de lui donner une portée ou une forme strictement contraire à la vérité sans même aucune homologie avec ce que j'avance. Assurément la difficulté propre à me traduire en langage universitaire qui est aussi bien ce qui frappera tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, et à la vérité celle dont je parle, peut-être animé par l'intérieur, qui fasse d'une immense bonne volonté, cette thèse donc qui va paraître à Bruxelles n'en garde pas moins tout son prix. Son prix d'exemple en elle-même, son prix d'exemple aussi par ce qu'elle promeut, de la distorsion en quelque sorte obligatoire d'une traduction en discours universitaire, de ce qui est quelque chose ayant ses lois propres. Ces lois dont je dois dire, il me faut effrayer, celle qui prétend donner au moins les conditions d'un discours proprement analytique, ceci étant bien entendu soumis au fait que tout de même, comme je l'ai souligné l'année dernière, le fait qu'ici je l'énonce du haut d'une tribune comporte en effet ce risque d'erreur, cet élément de réfraction qui fait que par quelque côté, il tombe sous le coup du discours universitaire. Il y a là quelque chose qui est ressorti d'une sorte de foncier porte-à-faux de lui, qui fait que j'ai une certaine position, d'une position certaine, à laquelle je ne m'identifie nullement. Je vous assure que chaque fois que je viens ici porter la parole, ça n'est certes pas de quoi que ce soit que j'ai à vous dire, ou qu'est-ce que je vais leur dire cette fois-là qu'il s'agit pour moi. Je n'ai à cet égard nul rôle à jouer au sens de la fonction de celui qui enseigne et de l'ordre du rôle, de la place à tenir et d'une certaine place de prestige, incontestablement. Ce n'est pas là ce que je me demande, mais plutôt quelque chose qui est une mise en ordre. Ma pauvre, de devoir la soumettre à cette épreuve d'une mise en ordre à laquelle, sans doute, comme tout un chacun, j'échapperais si je n'avais pas devant cette mer d'oreilles parmi lesquelles il y en est peut-être bien une paire de critiques que de voir devant avec cette redoutable possibilité rendre compte de ce qui est le cheminement de mes actions au regard de ceci qu'il y a du psychanalyste, que c'est même la situation qui est la mienne et que c'est une situation dont jusqu'à présent le statut n'a été réglé d'aucune façon qui lui convienne, si ce n'est à l'imitation, à la semblance de nombreuses autres situations établies et dans le cas aboutissant à des pratiques frileuses de sélection, à une certaine identification à une figure, à une façon de se comporter, voire à un type humain, dont rien ne semble rendre la forme obligatoire, à un rituel encore, voire à quelques autres mesures que, dans un meilleur temps, un temps ancien, j'ai comparé à celle de l'auto-école, sans provoquer d'ailleurs de lui contre aucune protestation, il y a même quelqu'un de très proche parmi mes élèves d'alors qui m'avait marqué. C'était là, à la vérité, à proprement parler, ce qui était désiré par quiconque s'engageait dans la carrière politique, recevoir comme à l'auto-école le permis de conduire selon des voies prévues et comportant un type d'examen. Il est certes notable, je veux dire digne d'être noté, qu'après 10 ans, cette position du psychanalyste, j'arrive tout de même à l'articuler. À l'articuler d'une façon qui est celle que j'appelle son discours, disons son discours hypothétique, puisque c'est bien c'est ce qui se fait cette année proposé à notre examen. À savoir de ce qu'il en est de la structure de ce discours. J'arrive à l'articuler de la façon suivante, que elle est faite substantiellement de l'objet petit a, de l'objet petit a, en tant qu'ici, dans l'articulation que je donne de ce qui est structure du discours, structure de discours en tant qu'elle nous intéresse, disons prise au niveau radical où elle a porté le discours psychanalytique. Elle est substantiellement celle de l'objet petit a en tant que cet objet petit a désigne précisément ce qui les effets du discours se présente comme le plus opaque et à la vérité depuis très longtemps méconnu, pourtant essentiel. Il s'agit de l'effet de discours qui est l'effet de rejet. L'effet de rejet dont je vais tout à l'heure essayer de pointer la place et la force. Voici donc ce qu'il est substantiellement, il en est substantiellement de cette position du psychanalyste, et cet objet se distingue d'une autre façon de ce qu'il vient à la place d'où s'ordonne le discours. Parce que c'est de là que s'en aimait, si je puis dire, la domina. Vous sentez bien la réserve qu'il y a dans cet emploi. Dire la dominante, ça veut dire exactement ce dont finalement je désigne pour les distinguer chacune de ces structures de discours, les désignant différemment de l'universitaire, de l'être, de l'esprit et de l'analyste par les positions diverses de ces termes radicaux. Disons que j'appelle dominante, faute tout de suite de pouvoir donner à ce terme autre chose que ceci, c'est que c'est ce qui me sert en quelque sorte à le dénommer. Dominante n'implique pas la dominance au sens où cette dominance spécifierait ce qui n'est pas sûr, le discours du maître. Disons, par exemple, on peut donner des substances différentes à cette dominante selon les discours. Que si nous appelions, par exemple, la dominante du discours du maître, ceci que RS1 en occupe la place, la loi, nous aurions quelque chose qui a toute sa valeur suggestive et qui ne manquerait pas de pouvoir ouvrir la porte à un certain nombre d'aperçus intéressants. Est-ce que la loi, entendons la loi en particulier, cette loi même, les murs à laquelle nous recevons abri, cette loi qui constitue le droit et qui n'est certes pas quelque chose dont il doit être tenu, c'est là l'homonyme de ce qui peut s'énoncer ailleurs au titre de la justice, et que, certes, l'ambiguïté, l'abîmement que cette loi reçoit, s'autoriser de la justice, et là, très précisément, un point. Notre discours peut peut-être faire mieux sentir. Où sont les véritables ressorts? J'entends ceux qui permettent l'ambiguïté. J'entends ceux qui font que la loi reste quelque chose, et d'abord et avant tout, d'inscrit dans la structure. Et qu'il n'y a pas 36 façons de faire des lois. Que la bonne intention, l'inspiration de la justice, les anime ou pas. Il y a peut-être des lois de structure qui font que la loi sera toujours la loi située à cette place que j'appelle dominante dans le discours du maître. Au niveau du discours de l'hystérique, il est bien clair que cette dominante, nous la voyons apparaître sous la forme du symptôme. Que c'est autour du symptôme que se situe, que s'ordonne ce qu'il en est du discours de l'histoire. Et certes, c'est là l'occasion de nous apercevoir que si cette place est la même, c'est peut-être pour ça qu'à une lumière, il ne suffit pas de dire que ce soit celle de l'époque pour en rendre raison. Que cette place dominante soit en un cas celle du symptôme, quelque chose à porter, de nous faire questionner comme étant celle du symptôme, la même place quand elle sert dans un autre discours. C'est bien en effet ce que nous voyons à notre époque. loi mise en question comme symptôme. J'ai dit tout à l'heure que cette même place dominante, peut être occupée quand il s'agit de l'analyste, parce que l'analyste lui-même, ici, de quelque façon, a représenté l'effet de rejet du discours, soit l'objet de l'analyse. Est-ce à dire qu'il nous sera aussi aisé de caractériser cette place, la place dite dominante, quand il s'agit du discours universitaire, pour lui donner un autre nom, un nom qui, de quelque façon, nous permettrait cette sorte d'équivalence. Poser comme existant au moins au niveau de la question de sorte d'équivalent de la loi du symptôme, voire le rejet à l'occasion dans l'acte psychanalytique, c'est bien la place à quoi est destinée. Eh bien, juste notre embarras à répondre sur ce qui fait l'essence, la dominante du discours universitaire, est là quelque chose qui doit nous avertir.
Coupure milieu de bande.
Oh, je vague air ma pensée avant de développer les points sûrs. C'est là en quelque sorte, l'idée pourrait nous venir de chercher ce qui, dans chacun de ces discours, pour désigner au moins une place, nous paraîtrait tout à fait sûr, aussi sûr que le symptôme quand il s'agit du discours. Est-ce que, puisque déjà, vous ai laissé voir que dans le discours du maître, le petit latin, il est précisément identifiable et ferme à ce qu'enferme une pensée travailleuse, celle de Marx, a sorti, à savoir de ce qui en était. Et réellement de la fonction de la plus-value, nous serions donc déjà en présence de deux termes d'où il ne resterait peut-être simplement à modifier légèrement, à donner une traduction plus aisé à transposer dans les autres registres, la suggestion ici se forme que puisqu'il y a en somme quatre places à caractériser, peut-être que chacune des quatre de ces permutations nous livrerait au sein de même celle qui est la plus saillante, disons, à constituer un pas dans un ordre de découverte qui n'a rien d'autre que celui qui s'appelle la structure. Eh bien, une telle idée aura pour conséquence de vous faire toucher du doigt, de quelque façon que vous la mettiez à l'épreuve, ceci qui ne vous apparaît peut-être pas au premier abord, c'est à savoir qu'essayer, simplement, indépendamment de ce que je suggérais, le pouvoir être celle qui les intéresse, essayez dans chacune, disons, appelons-les figures, dans chacune de ces figures, de vous obliger simplement à ceci, que dans chacune, la place est finie en fonction du terme de place, en haut, en bas, à droite ou à gauche, que dans chacune, la place soit différente. Eh bien, vous n'arriverez pas à quelle que soit la façon dont vous vous y prenez, à ce qu'elle soit chacune occupée par une lettre différente. Essayez, sens contraire, de vous donner comme condition du jeu de choisir dans chacune de ces quatre formules une lettre différente, eh bien, vous n'arriverez pas à ce que chacune de ces lettres occupe une place différente. Peut-être qu'en les sept, je très aisé à réaliser sur un petit papier, et aussi si on se sert de cette petite grille ou figure qui s'appelle une matrice, de voir tout de suite, avec un si faible nombre de combinaisons, le dessin exemplaire qui immédiatement a illustré la chose d'une façon parfaitement évidente. Si nous pensons qu'il y a là une certaine liaison signifiante et on peut poser comme tout à fait radical, c'est là aussi occasion d'illustrer de ce simple fait ce que c'est que la structure. Qu'à poser d'une certaine façon la formalisation du discours et à l'intérieur de cette formalisation de s'accorder à soi-même quelques règles destinées cette formalisation à la mettre à l'épreuve, se rencontre un tel élément d'impossibilité, voilà, qui est proprement à la base, à la racine, ce qui est fait de structure, et dans la structure, ce qui nous intéresse, au niveau de l'expérience analytique. Ceci, pas du tout, parce qu'ici nous sommes à un degré déjà élevé, au moins dans ses prétentions, élevé d'élaboration. Ceci, dès le départ, puisqu'aussi, si nous sommes à nous étreindre avec ce maniement du signe, l'articulation éventuelle, c'est bien que il est dans les données de la psychanalyse, je veux dire dans ce qui a un esprit aussi peu, je dirais, introduit à cette sorte d'élaboration qui a pu l'être un preuve, étant donné la formation que nous lui connaissons, qui est une formation du type science paraphysique, biologie armée des premiers pas de la physique, de la thermodynamique spécialement. Si Freud est à suivre la peine, le fil de son expérience, à former dans un temps qui pourrait être second dans son énonciation, n'en a que plus d'importance, puisqu'après tout, rien ne semblait l'imposer dans le premier temps, celui de l'articulation de l'inconscient, à Freud, dans un second temps, celui d'Hoff, où est pour lui acquitté celui, ceci que l'inconscient lui permet de situer le désir, c'est là le sens du premier pas de Freud, déjà tout entier, non pas impliqué, mais proprement articulé, développé dans la phrase de Freud, puis dans ce second temps, celui court, l'au-delà du principe désir, que nous devons tenir compte de cette fonction qui s'appelle quoi? La répétition. La répétition, qu'est-ce que c'est? Lisons son texte et voyons ce qu'il articule, ce qui nécessite la répétition, c'est la jouissance. Terme désigné en propre, c'est en temps qu'il y a recherche de la jouissance, en tant que répétition, que se produit ceci qui est en jeu dans ce pas de franchissement freudien, que ce quelque chose qui nous intéresse en tant que répétition et qui s'inscrit dans la dialectique de la jouissance, c'est proprement ce qui va contre la vie. C'est au niveau de la répétition que Freud se voit en quelque sorte contraint, et ceci, de par même la structure du discours, contraint d'articuler cette sorte d'hyperbole, d'extrapolation fabuleuse, et à la vérité qui reste scandaleuse pour quiconque prendrait au pied de la lettre l'identification de l'inconscient et de l'instinct, va articuler cet instinct mort, à savoir ceci, que la répétition n'est pas seulement fonction des cycles que la vie comporte, cycles du besoin et de la satisfaction, mais quelque chose d'autre, un cycle qui aussi emporte la disparition de cette vie. Tel le retour à l'inanité. Certainement. Point d'horizon, point idéal, point hors de l'épure, mais dont le sens, à l'analyse précisément structurale, s'indique parfaitement de ce qu'il en est de la jouissance, si nous partons déjà du principe du plaisir, pour savoir que ce principe du plaisir n'est rien que le principe de moindre tension, de la tension minimale à maintenir pour que la vie se maintienne, démontre qu'en soi-même, la puissance déborde et que ce que le principe du plaisir maintient, c'est la limite quant à la jouissance. Si ce que la répétition comme tout nous l'indique dans le fait, l'expérience, la clinique, si la répétition est fondée sur un retour de la jouissance, et que ce qui proprement à ce propos est dans Freud et par Freud lui-même articulé, c'est à savoir C'est à savoir que dans cette répétition même, c'est là que se produise quelque chose qui est défaut, échec, à savoir que, ici, en son temps, j'ai pointé la parenté avec les énoncés de Kierkegaard, ce qui se répète ne saurait, au titre même de ceci, qu'il est expressément et comme tel répété, qu'il est marqué de la répétition, ne saurait être autre chose que ce qui, par rapport à ce que cela répète, est en quelque sorte en perte de ce que vous voudrez, en perte de vitesse, mais qu'il y a quelque chose qui est perte, et que sur cette perte, dès l'origine, dès l'articulation de ce que je dis, si je résume, Freud insiste. Dans la répétition même, il y a des perditions de jouissance. Origine dans le discours freudien, la fonction de l'objet perdu. Cela, c'est Freud. Sous-tendu, il n'est pas tout de même besoin de rappeler que c'est expressément autour du masochisme conçu seulement sous cette dimension de la recherche de cette jouissance ruineuse que tourne tout le texte de Freud. Maintenant vient ici ce qu'apporte Lacan. Cette répétition, cette identification de la jouissance, c'est là j'emprunte pour lui donner un sens qui n'est pas pointé dans le texte de Freud, la fonction du trait unaire, c'est-à-dire de la forme la plus simple de marque, c'est-à-dire ce qui est, à proprement parler, l'origine du signifiant. Et j'avance ceci qui n'est pas dans le texte de Freud. J'adore ceci qui n'est pas vu dans le texte de Freud, mais qui ne saurait d'aucune façon être écarté, évité, rejeté par le psychanalyste. C'est que c'est du trait unaire que prend son origine tout ce qui nous intéresse, nous analystes, comme savoir. Car la psychanalyse prend son départ d'un tournant qui est celui où le savoir s'épure, si je puis dire, de tout ce qui peut faire ambiguïté, être pris d'un savoir naturel. Je ne sais quoi qui le guiderait dans le monde qui nous entoure à l'aide de je ne sais quel papille qui en nous serait naissance y orientée. Non, certes, qu'il n'y ait rien de pareil. Et bien sûr, quand un psychologue écrit de nos jours, enfin, je veux dire, il n'y a pas si longtemps, 40, 50 ans, quelque chose qui s'appelle la sensation dite de vie. Il ne dit, bien sûr, rien d'absurde. Mais s'il peut l'énoncer ainsi, c'est justement que toute l'évolution d'une science. Nous venons nous apercevoir qu'il n'y a nulle connaturalité de cette sensation à ce qui paraît le pénètre, l'appréhension d'un prétendu monde, si l'élaboration proprement scientifique, l'interrogation, le sens de la vue, voire de l'ouïe, nous démontre quelque chose, c'est que rien, sinon quelque chose que nous devons recevoir tel qu'il est, avec exactement le coefficient de facticité sur lequel il se présente, que parmi les vibrations lumineuses, il y ait un ultraviolet dont nous n'ayons aucune perception, et pourquoi je n'en ai pas. À l'autre bout, l'infrarouge, c'est la même chose, qu'il en est même pour l'oreille, qu'il y a des sons qui se sont entendre, qu'on ne voit pas beaucoup. Pourquoi ça s'arrête là, plutôt plus loin? La vérité, rien d'autre nécessitable, précisément d'être éclairé d'une certaine façon, que je dis qu'il y a après tout des filtres, et qu'avec ces filtres, on est. Pour être la fonction fait l'organe, c'est bien l'organe de ton cercle, mon côté. Il n'y a rien de commun entre ce quelque chose sur quoi a voulu construire et raisonner quant au mécanisme de la pensée toute une philosophie traditionnelle. Ils étaient forcés d'édifier par les voies qu'ils avaient, le compte-rendu de ce qui se fait au niveau de l'abstraction, de la généralisation, cette chose qui s'édifie sur une sorte de réduction, passage au filtre de ce qu'il en est une sensation considérée comme basale, nihil, fuerit in intellectu, quod non prius, etc. Vous savez la suite, il s'insure. Est-ce que c'est ce sujet-là, ce sujet déductible au titre de sujet de la connaissance, ce sujet constructif, d'une façon qui nous paraît maintenant si artificielle, à partir de l'État, sont bien en effet d'appareils d'organes vitaux, dont on voit mal en effet ce que nous pourrions faire à ce passé. Est-ce que c'est cela dont il s'agit, quand il s'agit de cette articulation signifiante, celle qui, premier terme, détaillation, qui sont ceux que nous tentons ici, commencer. Oui, les termes les plus élémentaires, ceux qui nous, comme je l'ai dit, insignifiant à un autre livre, et qui déjà porte effet, effet déjà en ceci, qu'il n'est manière ce signifiant dans sa définition. Car ceci, que ça ait un sens, qu'il représente pour un autre signifiant un sujet et rien d'autre, il n'y a pas moyen d'échapper à cette formule extraordinairement réduite qu'il y a quelque chose dessous, mais justement, que nous ne pouvons pas désirer. Donc un terme de quelque chose, ça ne saurait être un espace, c'est simplement un en-dessous, si vous voulez, un sujet, un hypokéiméon. Ceci que même à une pensée aussi investie de la contemplation, les exigences, celles-là primaires, n'ont pas du tout construit de l'idée de connaissance de celle d'Aristote, la seule approche de la logique, le seul fait qui l'ait introduite dans le circuit du savoir, lui impose de distinguer sévèrement l'hypothèse de tout ou s'il y a en soi-même quoi que ce soit qui soit essence. Le signifiant donc s'articule de représenter un sujet auprès d'un autre signifiant, c'est de là que nous partons pour donner sens à cette répétition inaugurale en tant qu'elle est répétition visant à la jouissance qui nous permet de concevoir ceci, que si le savoir à un certain niveau est dominé, articulé de nécessité purement formelle, de nécessité de l'écriture, de ce qui aboutit de nos jours à un certain cycle logique qui est en soi maniement et avant tout maniement de l'écriture. Ceci, ce savoir auquel nous pouvons donner le support d'une expérience qui est celle de la logique moderne, que ce type de savoir, c'est celui-là qui est en jeu quand il s'agit de mesurer dans la clinique analytique l'incidence de la répétition. En d'autres termes, le savoir qui nous parle le plus épuré, encore qu'il soit bien clair, alors que nous pouvions le dire, d'aucune façon de l'empirisme par épuration. Ce même savoir se trouve être quelle origine introduit qui montre sa racine en ceci que dans la répétition sous la forme du trait une aire pour commencer le savoir se trouve être le moyen de la jouissance. De la jouissance précisément en tant qu'elle dépasse limite imposée sous le terme de plaisir aux tensions usuelles de la vie. Et c'est ici que pour continuer de suivre la commune, ce qui appartient de ce formalisme. Si nous avons dit tout à l'heure qu'il y a perte de jouissance, parce que c'est à la place de cette perte que ce quelque chose introduit la répétition, que nous voyons surgir la fonction de l'objet perdu, de ce que j'appelle le petit tapis. Eh bien, qu'est-ce que ça nous impose? Sinon cette forme, que le savoir, travaillant au niveau le plus élémentaire, au niveau de cette imposition du trait humain, eh bien le savoir travaillant produit un bataille beaucoup surprenant. Produit, disons, une entropie. Et entre nous, pour écrire ENTRO. Vous le pourriez aussi écrire A-N-T-H-R-O. Ce serait d'ailleurs un joli jeu de mots. C'est pas pour nous étonner parce que il nous faut quand même que l'énergétique, ça n'est absolument pas autre chose. Les cœurs ingénus d'ingénieurs. Ça n'est absolument pas autre chose que le plaquage sur le monde du réseau des signes. Je vous défie de prouver d'aucune façon. En tout cas, mettez-vous y à l'ouvrage et vous verrez, vous aurez la preuve du contraire. Que c'est absolument la même chose de descendre un poids de 80 kg sur votre dos de 500 mètres. Et une fois que vous l'avez remonté de 500 mètres, il y a eu zéro, aucun travail. Enfin, ce plaqué là-dessus est suffisant, c'est-à-dire, si vous entrez dans la voie de l'énergie, il est absolument certain qu'il n'y a eu aucun travail.
Par ailleurs, la faculté
surprise de voir quelque chose apparaître.
Coupure milieu de bande.
Quand le signifiant s'introduit comme appareil de la jouissance, savoir apparaître quelque chose qui a un rapport avec l'entropie. Parce que là où on a défini l'entropie, c'est pour, quand on a commencé par plaquer sur le monde physique cet appareil de signifiant. Vous ne croyez pas que je plaisante. Parce que quand vous construisez une usine, n'importe où, naturellement vous en recueillez de l'énergie. Même vous pouvez en accumuler. Ben, c'est quand même une usine et les appareils tout au moins qui sont mis en jeu pour que fonctionnent ces sortes de turbines jusqu'à ce qu'on puisse mettre l'énergie en pompe. C'est bien parce que ces appareils sont fabriqués avec cette même logique. On parle de savoir en fonction du signe. De nos jours, une machine, ça n'a rien à faire avec un outil. Il n'y a aucune généalogie de la pelle à la turbine. La preuve, c'est que très légitimement, vous pouvez appeler machine un petit dessin que vous faites sur ce papier. Rien, il suffit simplement que vous ayez une encre qui sera conductrice pour que ça soit une très très efficace machine. Mais pourquoi ne serait-elle pas conductrice? Puisque la marque, déjà en soi-même, est conductrice de volupté. S'il y a quelque chose que nous apprend l'expérience analytique, monde du fantasme, dont à la vérité, ce ne semble pas plutôt que l'analyse abordée, c'est bien qu'on ne savait absolument pas comment s'en dépêtrer, sinon le recours à la bizarrerie, à l'anomalie, de par ce terme, cet épinglage de nom propre, les masochismes, ceci, sadisme, cela, nous sommes au niveau de la zoologie, nous mettons ces ismes. Enfin, tout de même quelque chose de radical. l'association dans ce qui est à la base, à la racine même du fantasme. De cette gloire, si je puis m'exprimer, celle de la marque. La marque sur la peau. Il s'inspire dans ce fantasme ceci qui n'est rien d'autre. Un sujet s'identifie comme étant objet de jouissance. Dans cette pratique érotique qui est celle de l'époque, révélation, pour l'appeler par son nom, l'ambiguïté même, par quoi c'est qu'à son niveau, à son niveau et à nul autre, que se touche l'équivalent du geste qui marque et du corps. Objet de jouissance de qui ? Celle qui porte ce que j'ai appelé la gloire de la marque. Aussi sûr que cela veuille dire jouissance de l'autre, certes, c'est par là, c'est une des voies d'entrée de l'autre dans son monde, et assurément, elle non réfutable. Mais l'affinité de la marque avec la jouissance du corps même, c'est là précisément où s'indique que c'est seulement de la jouissance et nullement d'autre voie que s'établit cette division dont se distingue le narcissisme de la relation à l'objet. La chose n'est pas ambiguë. C'est au niveau de l'au-delà du principe du plaisir que Freud marque avec force de ce qui fait au dernier terme le vrai soutien, la consistance de l'image spéculaire de l'appareil du moi, hein, c'est qu'il est soutenu à l'intérieur, il ne fait qu'avier cet objet perdu qui est ce par quoi s'introduit dans la dimension. Il est clair que si la jouissance est interdite, ce n'est que d'un premier hasard, d'une éventualité, d'un accident que la jouissance entre en jeu. L'être vivant qui tourne normalement, ronronne dans le plaisir. Si la jouissance est remarquable, et si elle s'entérine, d'avoir cette sanction du trait unaire, de la répétition, de ce qu'il institue dès lors comme marque. Si ceci se produit, ce ne peut être que d'un très faible écart dans le sens de la jouissance que cela s'origine. Ces écarts, après tout, ne sont jamais extraits, même dans les pratiques que j'évoquais tout à l'heure. Ce dont il s'agit, ce n'est pas une transgression réaction, d'une éruption dans un champ interdit de par les rodages, les appareils vitaux régulateurs, c'est qu'en fait, c'est seulement dans cet effet d'entropie, dans cette déperdition, que la jouissance se prend statue, qu'elle s'indique. Et c'est pour cela que je vais introduire d'abord du terme de mer lustre, de plus de jouir. C'est justement d'être aperçu dans la dimension de la perte que quelque chose nécessite à compenser, si je puis dire, ce qui est d'abord une ombre négative sur ce je ne sais quoi qui est venu frapper, résonner sur les parois de la cloche qui a fait jouissance et jouissance à répéter. C'est seulement cette dimension de l'entropie qui fait prendre corps à ceci qu'il y a un plus de jouir à récupérer. C'est là la dimension dont se nécessite de le travail, le savoir travaillant. Et comme tel, en tant que qu'il le sache ou pas, il relève premièrement du très bien, et à sa suite de tout ce qui va pouvoir s'articuler de signifiant, c'est à partir de là que cette dimension de la jouissance si ambiguë chez l'être parlant peut aussi bien théoriser, faire religion, de vivre dans l'apathie, car l'apathie c'est l'hédonisme. Il veut aussi bien faire religion de cela, et pourtant chacun sait que la masse, mais masse en psychologie, intitule ses écrits de la même époque, dans sa masse mère, ce qui l'anime, ce qui le travaille, ce qui le fait d'un autre ordre de savoir, de ces savoirs harmonisants qui lient le fait à l'ouvrette, c'est la fonction du plus de jouir comme tel. C'est là le creux, l'aberrance, que sans doute est d'abord vient remplir un certain nombre d'objets qui sont en quelque sorte par avance adaptés pour servir de bouchon. C'est là sans doute que la pratique analytique classique s'arrête à mettre en valeur. C'est non ce terme divers oral, anal, scopique, voire vocal, c'est non divers. Nous pouvons désigner comme objet ce qu'il en est du petit art. Mais le petit est proprement ceci qui découle de ce que le savoir se présente d'abord et dans son origine, un certain savoir. Et à l'articulation signifiée. Savoir est moyen de jouissance. Et je le répète, quand il travaille, ce qu'il produit, c'est l'entropie. Et cette entropie, c'est le seul point régulier, ce point de perte, par où nous ayons accès à ce qu'il en est de la jouissance. Quand ceci se traduit, se boucle et se maudit, ce qu'il en est de l'incidence du signifiant. l'action. Alors, la destinée de l'être parlant. Ça peut la faire avec sa parole. Ça la faire avec la structure laquelle s'apparaît et fait que l'être humain s'appelle ainsi sans doute parce qu'il n'est que le muscle du langage. N'a qu'à s'apparoler à cet appareil-là. Avec quelque chose d'aussi simple que mes quatre petits signes, j'ai pu vous faire toucher tout à l'heure, qu'il suffit que ce trait unaire, nous lui donnions compagnie, compagnie d'un autre trait. Est-ce que la presse pour que nous puissions situer le signifiant aussi visible. Ce qui en est son sens d'une part, de son insertion dans la jouissance de l'homme, de ce par quoi il est le moyen de la jouissance. À partir de là, commence le travail qui permet de savoir en tant que moyen de la jouissance que se produit ce travail. Il y a un sens. Un sens obscur qui est celui de la vérité, sans doute. Si déjà ces termes n'avaient pas été par moi abordés divers jours, qui les éclairent, n'aurait certainement pas l'audace de les introduire ainsi. Mais un travail a été fait, déjà considérable. Que quand je vous parle du savoir, comme est dans son lieu premier dans le discours du maître au niveau de l'esclave, qui, sinon Hegel, nous a montré que ce travail de l'esclave, ce qu'il va nous livrer, c'est la vérité du maître, sans doute celle qui le réfute. Dire, nous sommes en état, et peut-être, de pouvoir avancer d'autres formes du schéma du discours, d'apercevoir une idée qui reste béante, clôturer d'une façon forcée la construction hégélienne. Assurément, s'il y a quelque chose que toute notre approche est mise, et assurément elle a été par l'expérience analytique renouvelée, c'est que une évocation de la vérité ne peut se faire a indiqué qu'elle n'est accessible que d'un midi. Elle ne peut se dire tout entière dans la raison qu'au-delà de sa moitié, il n'y a rien à dire. Tout ce qui peut se dire est cela. Par conséquent, ici, le discours s'abolit. On ne parle pas de l'indicible. Le plaisir que cela semble faire à certains, il n'en reste pas moins que ce nœud du midi que j'ai la dernière fois illustré, indiqué. Comment il faut en accentuer ce qu'il en est proprement de l'interprétation. J'ai articulé l'énonciation sans énoncer. L'énoncer avec réserve de l'énonciation. Quand j'ai articulé là, le point d'axe, le point de balance, l'axe de gravité propre de l'interprétation est quelque chose dont notre avancée doit profondément renouveler ce qu'il en est la vérité. L'amour de la vérité c'est quelque chose de ce manque à être la vérité. Ce manque à être que nous pourrons aussi appeler autrement. Ce manque d'oubli. Ce qui se rappelle à nous dans les formations de l'inconscient. Ce n'est rien qui soit de l'ordre de l'être. D'un être plein d'aucune façon. Qu'est-ce que c'est que ce désir indestructible dont parle Freud pour conclure les dernières lignes de cette grande œuvre? Qu'est-ce que c'est que ce désir que rien ne peut changer l'Égypte qu'en touchant? Ce manque d'oubli, c'est la même chose que ce manque à être, car être ce n'est rien d'autre que d'oublier. Cet amour de la vérité, c'est cet amour de cette faiblesse. Cette faiblesse dont nous avons su lever le voile. C'est ceci que la vérité cache, qui s'appelle la castration. Je ne devrais pas avoir besoin de ces rappels. C'est en quelque sorte tellement l'ivresse. Sans que chez les analystes et particulièrement chez eux, non, c'est quelques mots tabous dont on dardouille son discours. Toujours justement là qu'on s'aperçoit jamais de ce que c'est la vérité, l'impuissance. là-dessus que signifie tout ce qu'il en est de la vérité. Il y ait amour de la faiblesse, sans doute est-ce là l'essence de l'amour, et comme je l'ai dit, l'amour, c'est bien donner ce qu'on n'a pas. Savoir ce qui pourrait réparer cette faiblesse originelle. Du même coup, ce qu'on soit s'en trouve. Ce rôle, je ne sais si je dois l'appeler plus mystique ou mystificateur, qui a été donné de tout temps dans une certaine veine à l'amour même. Car cet amour universel, comme on dit, pour nous brandir le chiffon, pour nous calmer, cet amour universel, c'est précisément ce dont nous faisons voile, voire obstruction à ce qui est la vérité. Qui est demandé aux psychanalystes. J'ai indiqué déjà la dernière fois dans mon discours. Ce n'est certes pas ce qui ressortit à ce sujet supposé savoir dont à manquant. Le fait d'en mettre un tout petit peu à côté, cru pouvoir fonder le transfert, souvent insisté sur ceci, que nous sommes supposés savoir pas grand-chose. Ce que l'analyse instaure, institue, c'est ceci, qui est tout le contraire. L'analyste dit à celui qui va commencer, allez, dites n'importe quoi, ça sera permis. C'est lui qui l'institue comme sujet supposé savoir. D'après tout, c'est pas tellement mauvaise foi. Parce que dans le temps présent, on ne peut pas se fier à quelqu'un. Le transfert se fonde sur ceci qu'il y a un type, un autre, vous dites me comporter comme si je savais quoi ça y fait. Je veux dire n'importe quoi, ça donnera toujours quelque chose. À quoi causer le transfert, hein? Ça ne t'arrête pas tous les jours. Ce qui définit l'analyste, comme je l'ai dit, j'ai toujours dit, puis toujours, simplement personne n'a jamais rien compris. Et puis en plus, c'est naturel, c'est pas ma faute. Je dis, puis toujours, l'analyse, c'est ce qu'on attend d'un psychanalyste. Alors, ce qu'on attend d'un psychanalyste, il faudrait évidemment essayer de comprendre ce que ça veut dire. C'est tellement, enfin, là comme ça, à la portée de la main, c'est même le sentiment que j'ai toujours. Enfin, c'est le travail. Le but de jouir, c'est pour nous. Ce qu'on attend d'un psychanalyste, c'est comme je l'ai dit la dernière fois, de faire fonctionner son savoir. C'est à lui que s'adresse C'est seulement à lui cette formule que j'ai si souvent commentée, les beaux espaces solitaires. C'est justement de n'être absolument pas là pour lui-même. Là où c'était le plus de jouir. Le jouir. C'est là où c'était.